when you walk over. You know what
quand
I
on regarde
realize?
Sur Internet, on
it
réalise... On a l'impression que c'est une longue marche depuis la chaise jusqu'au pupitre.
Hey, thank you so much.
Merci à chacun.
Really. My wife and I and my family,
ma femme, ma famille, je parle aussi pour les Hongrois et on est tellement reconnaissant pour le corps ici. Et merci pour la continuation du travail et de l'œuvre de Dieu, de la parole de Dieu. Peut-être vous savez ça déjà, l'importance de ce que vous faites ici pour nous autres qui sommes ailleurs et tout le travail qui se fait sur Internet, les publications, les témoignages. Vous ne savez pas même vraiment combien c'est un cours encourageant et édifiant. Quelle grande joie c'est d'être de venir à la maison, de s'asseoir à la salle à manger, au salon, être édifié, écouter la parole. C'est vraiment un grand privilège. Et je pensais simplement, une des choses que nous faisons lorsqu'on vient ici à Baltimore, je répare ma piscine tous les ans quand je reviens ici. Et chaque année, je viens et je me dis, bon, je sais comment faire ça. Tu nettoies l'eau, tu fais beaucoup d'efforts, tu dépenses de l'argent et l'eau reste verte. Et tu prends ça à un endroit où ils testent ton eau. Et ils te disent qu'il y a un déséquilibre. Et tu fais ce qu'ils te font et c'est super. Donc la prochaine fois, c'est ce que je vais faire, juste tester l'acidité de l'eau, régler ça et je vais régler le problème. Et parfois, on a tellement d'énergie qui est dépensée, une énergie qui est difficile. Et puis on regarde et on n'a rien accompli. Et parfois, c'est parce que juste on ne sait pas. Et je pense que dans Ecclésiaste 7, 13, que nous considérions l'œuvre de Dieu. Et spécialement lorsqu'on dépense de l'énergie. C'est pas mieux de dépenser de l'énergie et de voir le résultat. Mais quand c'est l'énergie de notre chair et que nous ne voyons pas de résultat, nous finissons en frustration et nous sommes vraiment sans énergie. Et donc je veux dire qu'avoir été ici cette semaine, la semaine de la conférence, ça a vraiment équilibré pas mal de choses dans ma vie. Nous considérons l'œuvre de Dieu. Et c'est une grande phrase, n'est-ce pas? J'étais tellement béni dans la réunion des pasteurs. Nous savons qu'il y a eu un temps de transition et qui a demandé beaucoup de prières, de fidélité, etc. Dans Corinthiens 13, beaucoup d'amour. Et toutes ces choses, on le voit ici. Demandez à tous ces hommes et ils vont dire que c'est vraiment l'œuvre de Dieu. Tu marches par la foi et regarde ce qui se passe. C'est vraiment l'œuvre de Dieu. Quand on va par la foi et qu'on croit par la foi, et la Bible nous dit qu'il y a beaucoup de plans dans le cœur de l'homme.
And isn't it good to find that out?
Mais c'est ceux de Dieu qui
demeurent.
Et ce n'est pas extraordinaire de juste d'agréer avec Dieu avant même de commencer à dépenser de l'énergie. Ce serait tellement, ça nous garderait tellement en santé. Et ce thème de comment penser avec Dieu cette semaine, c'était vraiment extraordinaire. Et on ne mélange pas notre propre compréhension des choses, mais nous... Nous reconnaissons Dieu dans toutes nos voies et c'est lui qui dirige nos pas.
Luke chapter 16 says that the things that are highly esteemed by man.
La Bible dit que les choses qui sont élevées, en tout cas très estimées par Dieu, sont une abomination, pardon, par l'homme, sont une abomination aux yeux de Dieu. Et dans ma vie, j'ai bien considéré des fois combien j'ai voulu plaire à certains préceptes que j'avais dans ma vie par rapport aux autres. Mais c'est bien de pouvoir vérifier nos préceptes. Parce que on ne doit pas juste avoir un vocabulaire dans notre pensée, mais une vie provoquée. Et ça me demande aussi d'agréer avec Dieu, et cela produit un enracinement dans mon cœur. Et quand je marche dans le plan de Dieu, et quand je reçois du cœur de Dieu, et quand je pense avec la pensée de Dieu, alors j'ai les résultats de Dieu, et les circonstances n'ont plus rien à voir. C'est édifiant, n'est-ce pas? C'est vraiment édifiant. Parce que Dieu, il a un but et j'ai un but. Et quand je soumets le but, mon but au but de Dieu, alors j'ai les résultats de Dieu. Et je peux me réjouir de ces résultats pour toujours.
Really, the bread of deceit is tasty for a moment, but then it turns to gravel in our teeth.
Vous savez, le pain de déception, de séduction, est doux à notre bouche pour un temps. Mais après, ça devient comme des cailloux dans notre bouche.
Imagine when we don't walk in our flesh, but we believe the word of God to be true, no matter what our circumstances say. Imagine when we
imagine lorsque nous croyons Dieu, malgré nos situations, que nous disons oui et amen aux promesses de Dieu. Alors, c'est là qu'on a des résultats éternels. Et on peut vivre dans le côté éternel de la croix. La chose qui est merveilleuse, c'est que nous avons été enseignés à avoir une oreille qui écoute. Nous avons été enseignés à comment recevoir la vérité. Et à dire, non, je suis désolé, j'ai un cœur qui est gardé, mon cœur est fixe avec Dieu. Psaume 67, 7. Et il n'y a rien qui peut entrer ici en dehors de la vérité de Dieu. Parce que je ne peux pas me permettre de dépenser l'énergie en dehors de Dieu. Dépenser l'énergie qui va me rendre frustré. Et je peux recevoir la vérité. Et je peux agréer avec la vérité. Et vivre dans la vérité. Et marcher dans la vérité. Et je peux avoir de la valeur dans cette vie. Et nous répondons au Dieu éternel qui a des valeurs éternelles et qui peut produire des résultats éternels. Et c'est pour ça que nous aimons ce corps, ce pupitre et les pasteurs qui partagent ici. Parce qu'il n'y a pas de place pour la chair, pour ma personnalité. Il y a seulement de la place pour Dieu, pour Christ, la vie de Christ, développée dans ma vie. Et nous sommes le produit de cet investissement. Combien d'entre vous m'ont connu depuis longtemps? Cette année, j'ai 40 ans.
I only say that because some of you are my teachers and Sunday school teachers and
parce que certains d'entre vous, je dis ça parce que certains d'entre vous, vous étiez mes enseignants à l'école du dimanche.
Wisdom is being used as the hairs are turning gray. So thank you so much for all the investment.
Merci pour tout l'investissement que vous nous avez donné. Merci pour votre vie. Nous vous aimons à Budapest. Et merci pour les hommes de Dieu qui ont refusé de laisser entrer des choses qui ne sont pas profitables pour le royaume de Dieu. Merci de nous avoir permis aussi de faire partie de cette vision. C'est tellement un privilège pour moi d'être ici. Même si je suis d'Angleterre, ça c'est vraiment ma famille et ma maison. Tous ceux qui ne sont pas d'ici, tous les missionnaires qui ne sont pas américains, nous sommes d'accord de dire que ça c'est notre famille. Et chaque jour nous sommes reconnaissants pour cette église et d'être connectés avec ici. Nous vivons dans la grâce de Dieu. Et tournez avec moi, s'il vous plaît, dans Luc, chapitre 9. Et prions, Seigneur, nous amenons nos cœurs devant toi ce soir. Et nous te demandons de continuer de nous parler. Donne-nous des oreilles pour entendre. Au nom de Jésus, amen. Au verset 22, le Seigneur parle de sa croix, comment il va souffrir, mourir et ressusciter. Et au verset 23, il parle de leur croix. Et au verset 23, il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Donc il a parlé de la croix, sa croix, et ensuite il a révélé à ses disciples que les disciples aussi doivent porter leur croix. Et j'aimerais qu'on parle un petit peu de qu'est-ce que ça veut dire porter notre croix. Et dans la connexion avec le thème de cette semaine, nous pouvons dire comme ça. Nous pouvons dire, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renie ses pensées et qu'il prenne mes pensées. Qu'il puisse renier ses propres pensées et qu'il reçoive mes pensées et qu'il vive de cela. La croix de Jésus, c'est là où il a fini le travail, là où il a payé pour nos péchés. Et notre croix, c'est de vivre dans l'œuvre accomplie. La croix de Christ, c'est là où le plus grand amour et un amour inconditionnel a été exprimé pour nous. Et notre croix, c'est là où on laisse Dieu nous aimer. La croix de Jésus, c'est là où un siège de miséricorde a été mis. Mais notre croix, c'est lorsque nous nous efforçons de nous approcher du trône de la grâce. Donc notre croix, c'est de penser avec Dieu. Notre croix, c'est de mélanger la foi avec ses pensées. Nous ne mélangeons pas la foi avec nos pensées, mais avec ses pensées. Nous agréons avec lui dans Amos 3:3. Comment deux peuvent-ils marcher ensemble à moins qu'ils ne soient mis d'accord? Homologueo, confesser, dire la même chose que agréer avec Dieu, de dire Amen à ce que Dieu a dit. Ça, c'est la croix. agréé avec lui. Et dans Néhémie 8, 6, quand Esdras a ouvert le livre, les gens ont dit Amen, Amen à la parole. Ils étaient en agrément avec lui, dans une réponse de foi à Dieu et à sa parole. Et c'était la vie de la croix. Et c'est là où nous découvrons la vie de résurrection, la vie spirituelle, quand nous allons par la foi dans sa parole. Dans 2 Corinthiens 10, 5, nous dit cela. Rejeter toute vaine imagination et toutes les choses qui s'exaltent au-dessus de la connaissance de Dieu ou des pensées ou de la connaissance de Christ. Et amener en obéissance toute pensée, en soumission toute pensée et en captivité à l'obédience de Christ et de sa pensée. Ça, c'est la vie de la croix. C'est notre bataille de penser avec Dieu. Vous pensez au sujet de la croix. Peu importe combien grande est la croix, il y a toujours un point d'intersection. L'horizontal rencontre la verticale. La pensée de Dieu qui va rencontrer la pensée de l'homme. Et notre croix, c'est quand on rencontre la pensée de Dieu et qu'on dit Amen, Amen, Amen. Et nous disons Dieu, tu es juste, tu es vrai, et nous te remercions. Quand une femme était prise en adultère et qu'il dit où sont tes accusateurs, et cette femme a réalisé qu'il y avait une croix pour elle là-bas. Elle a pu entendre qu'il n'avait pas de condamnation. Et la croix, c'est de dire Amen et de découvrir la vie de résurrection et qu'il n'y a plus de condamnation et qu'il y a le pardon. Alors que, comme on a entendu ce matin, Pierre qui disait « Oh Dieu, retire-toi de moi car je suis un homme pécheur », c'est un homme pécheur. C'est une pensée naturelle qui s'exalte contre l'œuvre accomplie. Et Dieu va dire, non, je ne veux pas que tu te retires de moi, mais je voudrais que tu t'approches de moi par la foi. Et dans Cantique des Cantiques 1:6, l'épouse dit, oh, ne me regarde pas car je ne suis pas belle. Mais dans 2:14, le fiancé lui dit, laisse-moi regarder à toi. Parce que tu es belle. Il y a une croix, une intersection, une décision que personne ne peut décider. Et nous avons ce privilège d'avoir notre croix personnelle et notre réponse personnelle à Dieu. Et dans Ésaïe 1, 18, il est dit, venez maintenant et raisonnons ensemble. Et laissez-moi vous dire ma pensée, et vous allez agréer avec cela, et vous allez penser et marcher avec moi. Et c'est merveilleux. Et nous avons tellement été bénis cette semaine, et pas seulement cette semaine, mais toutes ces années, d'écouter la pensée de Dieu, et d'avoir un privilège incomparable de dire « Amen ». C'est vrai, nous agréons avec toi, nous prenons notre croix. Et dans tout message, il y a la croix. C'est de dénier nos pensées naturelles et de recevoir les siennes. Amen. Tournez avec moi dans le psaume 119. Verset 25.
We'll look at two verses.
On va regarder à deux versets. Parce que cela reflète un peu de ce que Pasteur Chaleur a parlé ce matin, de grandir dans la grâce et la vérité. Et c'est tellement important. Et je prêchais un message il n'y a pas longtemps, la vérité, la grâce de la vérité et la vérité de la grâce. Si c'est que de la grâce, c'est de la passivité. Et si c'est que de la vérité, c'est le légalisme. Mais la grâce et la vérité sont ensemble. Et c'est la plénitude et la gloire de Dieu. Et nous sommes des receveurs de la grâce et de la vérité de Dieu sur une base journalière. C'est le but éternel de Dieu pour nous. Donc, Psaume 19, verset 25. « Mon âme est attachée à la poussière. Rends-moi la vie. Rends-moi la vie. Rends-moi la vie. » Ça veut dire « Rends-moi la vie. »
Make me alive.
Rends-moi la vie.
I can't make myself alive.
Je ne peux pas me rendre vivant moi-même. Rends-moi vivant.
Give me life. Refresh me. Restore me is what the word here means.
Ça veut dire rafraîchir, restaurer.
Life. I need some life.
J'ai besoin de vie.
Make me alive according to thy word.
En accord avec ta parole. Selon ta parole. Seigneur, merci pour cette semaine de la grâce et de la vérité dans le but éternel de Dieu dans lequel nous croissons. Bénis ce temps maintenant. Merci pour la parole qui a été partagée par les hommes qui ont la vie à cause de la parole. Et ce qu'ils donnent, et la parole qu'ils donnent, c'est la vie. Donc merci pour chacun, pour ce ministère. Dieu, une opportunité de voir les portes ouvertes à Baltimore, Maryland, partout dans le monde. Et quand notre âme est attachée à la poussière, rends-moi la vie, rafraîchis-moi, restaure-moi, fais de moi un receveur. Au nom de Jésus, amen. Vous pouvez vous asseoir.
I'm sure just like everybody else here there was points maybe even today or yesterday when I felt if I ever.
Je suis persuadé qu'il y a eu pour certains. Je suis persuadé comme certains. On était ici jusqu'à 1h du matin. J'avais beaucoup de peine à me lever de ma chaise. Et mon âme était vraiment attachée à la chaise. Peut-être parce que ces chaises sont tellement confortables. Et vers 2h, je suis allé à la maison et j'ai dit, bon, je vais aller me coucher. À 3h, le téléphone. Et quelqu'un téléphonait, je ne voulais pas répondre, mais il disait, je sais que tu es là. Et la personne a essayé 5 fois. Et je me suis dit, Seigneur, aide-moi à bouger parce que mon âme est attachée à la poussière, à mon humanité, à ma condition, aux effets de mon corps. Vous avez déjà remarqué que votre corps parle. Votre corps vous parle. Ouh. Ah.
Getting up there, aren't you? What do you mean 40 years old? What's that?
Qu'est-ce que ça veut dire 40 ans, le gars?
Decades ago, that's like gone. 40.
Et je me souviens même pas quand moi j'ai eu 40 ans. Il y avait tellement longtemps. Notre âme est attachée à la poussière. Et il y a une grande opportunité. Savez-vous?
The thief would love to steal everything he could.
Vous savez ce qui va se passer demain? Le voleur va essayer de voler tout ce qui s'y se passe, tout ce qui s'est passé pendant cette semaine. Et les initiations de l'atmosphère, et parfois nous sommes fatigués, et ça va, c'est normal d'être fatigué. Allez juste vous reposer. Il y a des gens qui veulent forcer quand ils sont fatigués. Ma femme, c'est elle souvent qui me conseille d'aller me coucher quand je suis trop fatigué. Et je lui dis, d'accord Linda, je vais aller me coucher. Mais j'aime ce que le psalmiste dit ici. Il y avait... Donc c'était... Il parle des Juifs qui retournent à Jérusalem pour reconstruire le temple. Et il y avait un grand travail à faire. Et dans ce voyage, il y avait tellement de fatigue. Et quand ton corps est fatigué, ton âme est attachée à la poussière. Je me souviens d'une fois, j'étais tellement fatigué que je suis tombé par terre. Mais il y a une promesse de Dieu qui dit, rends-moi la vie selon ta parole. Donc peu importe comment nous allons ce soir, ce que nous sentons, mais quand mon âme est attachée à la poussière, dans le psaume 119, verset 107, il est dit, j'ai été tellement affligé, mais fortifie-moi selon ta bonté. Et plusieurs fois dans le psaume 119, il dit, rends-moi la vie, rends-moi la vie, rends-moi la vie. Pouvez-vous imaginer, pendant 120 ans, vous construisez une arche? Chaque jour, vous vous levez, levez-vous, prends la hache, prends le marteau. Allez, on construit, on est moqué, ridiculisé. Ta famille même se pose des questions quant à ce que tu fais. Et ton âme commence à s'attacher à la parole, à la poussière. Et tu dis juste une phrase, rends-moi la vie selon ta parole. Et c'est la prière du psalmiste. Et tu crois que Dieu va répondre comment à cette prière? Je pense qu'il va répondre. Bien sûr que Dieu répond. Les voyages, les appels. Pense à Pasteur Stevens, pense à tous ces hommes qu'on a vus pendant la soirée d'émission. Des gens qui ont travaillé pendant des dizaines d'années, des missionnaires, et décade après décade. On peut se retrouver à penser que notre âme peut être attachée à la poussière. Élever des enfants, parfois, on peut se retrouver comme notre âme étant attachée à la poussière. Et on a besoin que Dieu nous rafraîchisse et nous rende la vie selon sa parole. Parce que la parole a la vie. Et la vie produit quelque chose en moi. La parole de Dieu est et aiguisée comme une épée, et efficace et vivante, comme une épée à double tranchant. Alors quand j'entends la parole, et quand j'entends quelqu'un prêcher, ça doit faire quelque chose dans ma vie, ça doit me rendre la vie. Quelque chose doit se passer dans l'esprit d'un individu. Et il y aura des temps, bien sûr, chaque jour, chaque mois, chaque année, et quoi que ce soit que nous fassions, où que nous soyons, nous expérimentons le fait que notre âme est attachée à la poussière. Pensez à Moïse dans le désert. Presque Moïse priait, il disait, Dieu tue-moi, mais ne laisse plus avec ces gens. Il y a 3 millions de personnes. Et chaque jour, ce n'est rien d'autre que murmure, murmure. Et après, il y a eu Myriam, après, il y a eu Aaron, et après, il y a eu Corée, et après, il y a eu la négativité. Ils ont besoin d'être nourris. Et Moïse est là-bas. Et même son beau-père a dû lui donner quelques conseils. pouvait aller à mais Moïse pouvait aller à Dieu et dire, « Oh Dieu, rends-moi la vie selon ta parole. » Jacob, lorsqu'il revenait vers le pays promis, a certainement dû dire, « Rends-moi la vie selon ta parole. » Joseph, vendu en esclavage, il a passé 93 ans en Égypte, et malgré les difficultés et les oppositions qu'il a rencontrées, certainement c'est quelqu'un qui a dit, « Rends-moi la vie selon ta parole. » C'est la parole qui nous rend la vie. C'est la parole. Penser avec Dieu dans la grâce et dans son but éternel. Je suis fortifié par Dieu. Et donc, temps après temps, moment après moment dans les Écritures, tu vois des afflictions. Et la seule chose qui fera la différence, c'est que Dieu nous fortifie selon sa parole et selon sa grâce. Rends-moi la vie. Et pas seulement, et au lieu de se soumettre au fait que notre âme est attachée à la poussière, on peut confesser ces choses. On est fatigué, on est ceci, on est cela, mais ce n'est pas le dernier mot sur le sujet. Rends-moi la vie. Ça, c'est la fin de notre phrase. Rends-moi la vie selon ta parole, selon ta grâce. Et lorsqu'on pense à tous ces pays comme la Turquie, l'Iran, l'Irak, et des gens qui iraient là-bas comme missionnaires dans ces pays difficiles, on pourrait facilement, après des années de travail, ressentir comme l'âme est attachée à la poussière. Mais il nous reste cette phrase, « Rends-moi la vie selon ta parole. » Et il arrivera bien des temps dans notre vie où on va expérimenter le fait que notre âme est attachée à la poussière. Mais dans Acte 5, verset 20,
l'ange a dit, « Go, stand, and what, give them what, the word of this life. Give them the word of this life. And this is our opportunity. »
Ça, c'est notre opportunité d'être fortifié par Dieu. Au lieu d'être soumis à l'atmosphère, aux situations, à notre chair, à toutes les initiations des autres personnes, aux conseils des gens, je dirais simplement, Dieu, rends-moi la vie, rends-moi la vie. Comment un homme peut dire, lorsqu'il a 95 ans, donne-moi cette montagne, comme Caleb l'a fait. Caleb a dit, à 95 ans, il a dit, je suis aussi fort aujourd'hui que lorsque j'étais avec Moïse. Il a dit, les plus grands géants n'ont pas été tués. Dans tout le pays, les fils d'Anak n'ont pas été tués. Et Caleb dit, donne-moi cette montagne avec les géants. Je suis aussi fort que lorsque j'avais 40 ans. On m'a rendu la vie par la parole. Et Hébron veut dire communier avec Dieu. Et dans les plus grands problèmes, tu peux avoir une communion avec Dieu. Et dans la guerre contre nous, tu peux avoir communion avec Dieu. Et nous disons, Dieu, rends-moi la vie selon ta parole. Donne-moi ta parole, donne-moi ta parole. Je suis né de nouveau, j'ai un appel, j'ai un but. Mais peut-être que maintenant il y a quelque chose qui ne va pas bien et je suis fatigué, je suis découragé ou quelque chose prend place dans l'atmosphère. Et la seule chose que je peux faire en tant que croyant avec un appel, c'est de dire, Dieu, rends-moi la vie selon ta parole. Rends-moi la vie selon ta parole, selon ta grâce. Et Dieu vient et il nous motive et il nous parle et nous découvrons nous-mêmes, marchons avec Dieu. Marchons avec Dieu. Et vous savez quoi? Année après année, nous avons tellement d'opportunités, tellement d'opportunités. Nous avons un grand Dieu. Nous avons la parole de Dieu. Nous avons un but éternel. Nous avons un leadership. Dieu lui-même. Dieu, rends-moi la vie selon ta parole. Quand je suis chassé par Saül, que je dois aller de caverne en caverne, de désert en désert, plutôt que d'être soumis aux situations, et il y en aura des situations. Et elles sont permises par Dieu. Mais ce sont des opportunités pour le chrétien, pour l'Église, pour le pupitre de recevoir la vie constamment. Rends-moi la vie selon ta parole. Et quand je reçois cela, la vie de Dieu infuse dans la vie de Dieu, la vie du croyant. Et gloire à Dieu pour ce soir. Et je ne peux pas attendre pour demain. Et ce que Dieu a pour nos vies, c'est merveilleux alors qu'il nous rend la vie selon sa parole. Père, merci ce soir. Parfois, notre âme est attachée à la poussière. Et nous sommes dans beaucoup d'afflictions. Mais rends-nous la vie selon ta parole. Rends-moi la vie selon ta parole. Et alors que je reçois la vie et que je suis restauré et rafraîchi et reconstruit de nouveau, nous allons de l'avant et je suis fortifié dans le chemin parce que je reçois la grâce et la parole et nous croissons en tant que croyants, en tant qu'Église, en tant que ministère. Et nous croissons parce que nous avons été rendus vivants et que nous sommes des receveurs de la parole de Dieu et de la grâce de Dieu. Et peut-être vous êtes là ce soir et vous n'avez jamais reçu Jésus comme votre sauveur personnel.